On parlait
Parler de démocratie et de nation, ça ne va pas ensemble. Parce que la démocratie telle qu'elle est constituée aujourd'hui, sur le modèle, je le répète, du parlementarisme dit représentatif et des banques centrales, ne peut, c'est l'antithèse de la nation, en fait, puisque c'est la concentration des pouvoirs dans les mains de ceux qui détiennent la finance. Donc, en réalité, il n'y a pas du tout de séparation des pouvoirs. Donc, ce n'est pas une démocratie. Donc, il faut utiliser les termes qui sont des termes propres, parce que sinon, on rend confus le discours et même on rend confus l'entente de ce qu'on dit. Les gens en face ne peuvent pas comprendre. En réalité, il faut cesser de considérer que les régimes politiques dans lesquels nous vivons sont des démocraties. Ils ne l'ont jamais été. De la même façon qu'ils ont été l'antithèse de la nation dès le départ. La nation, elle est fondée sur une cohérence d'un groupe politique. Or là, il y a plus de politique. Tout a été capté, monopolisé par des intérêts privés qui sont représentés par cette finance. Enfin, les grands banquiers qui ont été aussi des commerçants. Donc, c'est à la fois, et moi je les appelle les banquiers commerçants parce qu'ils étaient changeurs, ils étaient banquiers, ils avaient une double activité à la fois civile de banque et commerciale de transactions. Donc, transactions de matières premières. Nous ne vivons pas définitivement en démocratie et depuis le début. Simplement, ça a donné l'illusion qu'il y avait un équilibre des pouvoirs et une démocratie pour la raison que j'ai expliquée plus tôt, c'est qu'au XXe siècle, il y a eu cet antagonisme entre le communisme et le libéralisme. Mais ça ne signifie pas que nos régimes intérieurs étaient des démocraties. Ça signifie juste qu'ils ont été soumis à des forces externes plus fortes et qui se contrebalançaient. Mais ça ne préjugeait pas de la qualité interne de nos régimes. Or, maintenant que ces forces externes ont disparu, on peut juger justement de la réalité, de la qualité des régimes dans lesquels nous vivons. Et donc, une fois de plus, ce ne sont pas des démocraties. Et la nation n'a rien à voir là-dedans. Ça a été justement la destruction systématique et systémique de l'idée même de nation. La nation, c'est un territoire qui fonctionne de façon homogène avec les habitants qui vivent dessus et qui échangent de façon, comment dirais-je, harmonieuse, hein, le plus harmonieuse possible en tout cas, au quotidien et puis dans la vie collective, qui arrive à créer une vie collective. En fait, c'est la formalisation juridique de la nation, l'État-nation. C'est là-dessus que, enfin, mes travaux portent aussi sur le fait qu'il faut réinvestir la notion d'État dans sa substance réelle, c'est-à-dire la forme juridique qui consacre l'existence d'une nation, c'est-à-dire d'un groupe homogène de gens capables de fonctionner de façon satisfaisante pour un échange bénéfique réciproque. Parce que la liberté de circulation, je le répète, est une des grandes revendications de la Révolution française. C'est à leur initiative c'est à l'initiative des exécutifs locaux que l'Union européenne a été créée. Donc je répète que en réalité le problème il n'est pas externe, il est interne. C'est-à-dire que c'est parce que nos institutions ont été infiltrées par cette mafia, disons globaliste, hein, pour parler largement à la fois des banquiers et des grands industriels qui aujourd'hui sont dans le numérique, les GAFAM et compagnie. Donc en fait, toute cette domination économique, en fait, elle est déjà chez nous. Donc si elle est chez nous, elle cherche à se développer de façon supranationale par le biais des instances européennes, mais on ne pourra pas sortir des instances européennes tant qu'on n'a pas fait le ménage chez nous. Enfin, je veux dire, c'est une évidence même. Donc il faut récupérer sa souveraineté d'abord chez nous pour pouvoir après avoir des gens qui seront en état de dire, bah, maintenant, on sort des instances européennes. La façon dont la politique fonctionne, qui n'est pas de la politique, je le répète, qui est de la domination économique, si on ne résout pas ce problème chez nous, on ne pourra pas prétendre le résoudre en Union européenne. Nous avons un tuteur externe qui est le tuteur de la haute finance, on peut dire des Américains, mais en fait c'est les Américains via l'OTAN, via la CIA, via la gestion monétaire du dollar en tant que monnaie mondiale. Donc c'est ça notre tuteur. Donc tant que ce tuteur-là reste solide, bah effectivement l'Union européenne est solide. Maintenant, comme ce tuteur-là commence à avoir des moments de faiblesse et que les jours du dollar en tant que monnaie mondiale sont comptés, effectivement, on peut compter aussi que cette soumission va se lézarder. Tant que la finance reste suprémaciste, on ne sortira pas de nos problèmes. Ils pourront changer de forme, mais ils existeront toujours. Donc, l'idée, c'est de changer de paradigme. Et changer de paradigme, une fois de plus, ça veut dire réinvestir les habitants des territoires avec le rôle politique qu'ils n'auraient jamais dû perdre. C'est-à-dire que dans leur quotidien, ils doivent être en charge du développement et du choix qui impacte, des choix qui impacteront leur vie et leur vie quotidienne et aussi familiale et aussi collective. L'Allemagne, qui était soi-disant le moteur de l'Union européenne, mais complètement soutenue en sous-main par cette finance apatride, même elle, elle est sacrifiée et que même étant sacrifiée, les Allemands n'arrivent pas encore à vouloir réinvestir leur champ propre d'activité. Donc, je dirais que ce n'est pas un problème de forme, c'est un problème de fond. Et ce problème de fond, c'est le problème des rapports de force. Pas une Allemagne nation, c'est une Allemagne soumise à ses puissances financières. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Allemagne n'aurait jamais pu ressurgir de la guerre après deux guerres mondiales qu'elles ont perdues, si elle n'avait pas eu ce soutien considérable et radical et définitif de toute cette finance anglo-saxonne en arrière-plan. Donc l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne en fait, c'est comment dirais-je, des oripeaux allemands pour donner une apparence de nation, alors qu'en réalité, derrière, c'est toujours cette domination financière qui est suprémaciste en fait, hein. Je ne peux pas appeler ça autrement. Il faut comprendre que ces nations n'existent plus déjà. Elles sont soumises par cette puissance financière dominante et hégémonique et monopolistique, en fait. Il n'y a plus de pouvoir politique chez nous, et ça, encore une fois, ça passe par le fait que toute la caractéristique politique est contenue et contrôlée par les partis politiques. Les partis politiques, c'est l'arme de destruction massive de la politique.
Exactement.
Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que effectivement, tout ce petit milieu fonctionne en tribu, sur le mode tribal, et ce mode tribal, c'est exactement la définition de la mafia. Donc, en réalité, nous avons affaire à une mafia, une véritable mafia, et c'est une mafia au sens méthodique, enfin au sens premier. Du fonctionnement des mafias, c'est-à-dire sens tribal. Et donc ça, on l'oublie trop souvent, mais ça va très bien avec le fait qu'il n'y ait pas de, enfin que ces gens-là n'aient pas de patrie, qu'ils soient apatrides. On est vraiment dans un nomadisme de tout. Enfin, il n'y a pas d'ancrage territorial de cette mafia. Donc, ce qui les différencie un peu encore aujourd'hui des mafias traditionnelles, parce que les mafias traditionnelles, elles sont encore ancrées sur un territoire avec des valeurs traditionnelles, des coutumes plus ou moins. Je ne pose pas de jugement de valeur sur ces coutumes qui sont évidemment pas légitimes selon le modèle de développement traditionnel sur le continent, mais je dirais qu'il y a une petite différence entre cette mafia financière et les mafias traditionnelles, c'est justement ce côté apatride. Mais sinon, elle fonctionne sur le même modèle tribal. Je ne suis pas spécialiste du développement des mafias, mais il se trouve quand même que la mafia sicilienne, ça c'est clair à peu près pour tout le monde aujourd'hui, ne s'est réellement développée, n'a pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui que par son alliance avec cette mafia financière via la CIA, hein, les services secrets qui vont contrôler justement les flux et les trafics de drogue. C'est la drogue qui est à l'origine de toute cette. Disons cet effet de levier qui ont fait passer les mafias traditionnelles qui étaient de faible envergure à des partenaires officiels et définitivement actés de la mafia financière.
Parce que malheureusement, beaucoup croient que l'Union européenne, c'est un projet d'avenir, c'est un projet commun,
C'est un projet de soumission commercial et financier au départ, dès le 19e siècle. Et puis ensuite, ce sont les grands cartels qui ont décidé en premier lieu de créer des instances politiques à leur mesure, c'est-à-dire à la fois centralisatrices et étendues sur plusieurs nations, sur plusieurs pays. Donc ça a été l'origine, c'est les grands cartels qui sont à l'origine de la création de l'Union européenne. Elle s'est faite premièrement sous égide allemande, hein, sous le régime nazi. On parlait déjà de la grosse Europa, hein, la grande Europe. Et puis ensuite, ce projet a été récupéré par les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient les Américains. Mais en réalité, c'était les mêmes élites financières qui étaient derrière, sauf qu'elles étaient encore plus concentrées et encore plus internationalisées avec des méthodes, enfin, disons, des outils économiques, juridiques et techniques plus élaborés encore, plus complexes. Mais en fait, les rapports de force derrière, ce sont les mêmes. Ça a toujours été ça. D'autre part, il s'agit d'un projet de soumission. De soumission des populations, de soumission des peuples aux intérêts plutocratiques et oligarchiques qui passent par le biais du contrôle de l'économie, mais qui sont au départ, qui viennent au départ du contrôle des monnaies. Vous savez que le juriste, son premier travail, c'est de qualifier les choses et les actes et les événements. Et je dirais que ce qui qualifie le mieux ce globalisme, ce mondialisme, c'est en fait son caractère criminogène. Ce sont des instances criminelles. On est dans le crime, le crime en bande organisée, mais de très haute envergure. Donc, on parle plus de enfin, parler de délinquants en col blanc, c'est très au-delà de la réalité, très en dessous de la réalité.
Ah non, mais
Nous
clairement.
sommes vraiment dans la grande criminalité. On ne parle pas de constitution européenne, on parle des traités européens, et le dernier en date, c'est le traité de Lisbonne. Vous savez que la Constitution européenne avait été rejetée par les Français sur le modèle du référendum et qu'ensuite
Rappelons-le en 2005, voilà,
le traité
c'était
de
en 2005.
Lisbonne a été imposé par le pouvoir en place,
À l'époque, Nicolas
en
Sarkozy,
passant
ouais.
par le fameux parlementarisme dit représentatif.
C'est
Donc
ça.
ça, c'est presque pas utile de le rappeler parce que tellement tout le monde l'a en tête, mais je dirais que c'est quand même poser les fondements du sujet sur lequel on va parler, c'est intéressant. Alors, par rapport à la Constitution française, la Constitution française, normalement, est au-dessus de tous les traités. Cependant, elle a intégré, parmi ses multiples modifications, le fait que, il fallait, pour qu'un traité s'applique et soit apparaît, enfin, pour qu'un traité puisse être appliqué chez nous, s'il y avait des dispositions contraires à la Constitution, il fallait que la Constitution soit modifiée. Donc, ils ne se sont pas gênés pour modifier de maintes et maintes façons la Constitution de façon à pouvoir rendre les traités compatibles avec les règles générées chez nous. Mais je ne sais même pas si on peut encore parler de constitution, parce que vous savez bien que quand on établit des règles et qu'on les change en fonction de la pluie et du beau temps, du désir des uns et des autres, c'est plus des règles. On n'est plus, déjà, de ce fait-là, on n'est plus, les gens auraient dû comprendre qu'on n'était plus dans un état de droit. Parce qu'un état de droit, ça suppose qu'il y ait des règles intangibles qui ne soient pas modifiables au gré de l'humeur des uns et des autres, de la volonté d'un tel ou d'un tel. Donc le fait que les règles fondamentales qui devraient régir notre vie collective soient modifiables de façon quasi instantanée sur des prétextes relativement modestes, enfin je dirais pour faire plaisir aux uns et aux autres, c'est déjà le signe que nous ne sommes plus en état de droit, dont on se goberge en permanence en disant, voilà, nous vivons dans une démocratie et nous sommes régis par l'état de droit. Mais non, en fait, tout ça, c'est du baratin. Et la meilleure preuve en est, c'est que, justement, même les traités européens eux-mêmes ne sont pas respectés par ceux qui les ont écrits, alors qu'ils les ont écrits à leur propre service, hein, à leurs propres avantages, ne sont pas respectés quand un problème surgit, un nouveau problème surgit, et que ces traités deviennent un peu gênants. Donc, ils sont violés aussi vite que la gêne est arrivée. Donc, je dirais que ça, c'est la démonstration évidente selon laquelle il n'y a plus d'état de droit, et ça date pas d'hier, mais là, je dirais qu'avec le traité de Lisbonne, c'est devenu tout à fait évident. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu plus feutré. Et puis, ça l'était d'autant plus qu'effectivement, il y avait ce contre-pouvoir externe dont j'ai parlé au début, qui étaient les deux blocs qui se faisaient face entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais
Non,
c'est
non, mais c'est
important
très clair.
de comprendre qu'en fait, la Constitution, elle est modifiée au gré des besoins de ces forces qui sont sous-jacentes et qui elles-mêmes génèrent les règles plus hautes et les règles plus basses, évidemment. Tout ce qu'on appelle le fantasme européen, parce que j'appelle ça un fantasme, ça n'a rien à voir avec les intérêts européens, toute cette construction artificielle autour des institutions européennes et de forces militaires soumises n'ont rien à voir avec finalement des intérêts nationaux. Et donc, il faut que tout ça éclate. Mais vous voyez bien que ça va prendre du temps parce que les gens, les habitudes ont été prises, qu'il y a énormément d'argent en circulation et que cet argent sert à corrompre. Vous avez dans tous les pays européens des dirigeants qui ne sont pas au service de leur patrie. C'est une évidence. Ils ont même été précisément positionnés justement pour détruire ces nations. Donc, vous comprenez que la propagande sert à cacher en réalité toute cette réalité pour éviter que la prise de conscience ne se fasse et que des forces réellement patriotiques et efficaces et intègres puissent, enfin intègres au sens où elles agiront au service de leur nation, de leur patrie, tout ça est fait pour que ça n'arrive pas en réalité. Donc c'est là où vous avez toute cette émergence de fausses dissidences, de dissidences contrôlées, d'oppositions contrôlées. Ça sert justement à préserver le rapport de force en faveur de l'hégémonie financière globale. Donc c'est très compliqué, je le répète, en fait le jeu international aujourd'hui est extrêmement chaotique, il est imprévisible parce qu'il y a énormément de paramètres qui ne sont plus sous contrôle ni des uns ni des autres.
Et c'est-à-dire que le développement des technologies a joué en leur faveur pour concentrer de plus en plus de puissance financière, de puissance créatrice et de richesse aussi, hein, de richesse à la fois matérielle et immatérielle, s'y fait qu'ils ont tout absorbé, en fait. Effectivement, ils ont tout absorbé. Maintenant, je ne prononcerai pas tout à fait sur ce qui s'est passé avec l'Empire Ottoman, parce que je ne suis pas assez compétente sur cette question-là. Ceci étant, c'est une des caractéristiques des banquiers de toujours miser sur les deux parties de façon à ne jamais être perdant. Et ça, ils peuvent se permettre ça parce qu'ils n'ont pas de responsabilité afférente. C'est-à-dire que comme ils misent de façon relativement anonyme, en tout cas, ils ne le font pas de façon publique, les perdants ayant toujours tort, ils ne sont jamais pris en défaut, ils ne sont jamais attraits en responsabilité pour le fait d'avoir été déloyal, malhonnête ou voire carrément nocif en développant des mises sur des choses très illicites ou voilà, enfin en tout cas sur des mercenaires en développant l'usage de mercenariat, enfin donc de toute façon il est clair que la révolution industrielle leur a permis un effet de levier qui leur a donné un pouvoir considérable de captation des richesses. Et c'est de là aussi que nos maux actuels viennent. C'est-à-dire que si ces gens-là n'avaient pas pu capter toutes les richesses possibles en déterminant les règles qui leur permettaient de toujours en capter plus, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce que en fait, c'est le fruit d'une réflexion, c'est ouais. Le fruit d'une évolution. En fait, j'ai essayé de faire le lien entre tout ce qui avait marché avant, tout ce qui a marché après, dans nos régimes dits politiques depuis les grandes, ce qu'on a appelé les grandes découvertes. Hein.
Ouais. En fait, au moins depuis d'accord.
En esclavage généralisé des populations. Enfin bon, on va dire ça grossièrement parce que finalement ça c'est, et je dirais que les Anglais ont été les premiers, la première population à être en esclavage par cette mafia ouais. Qui s'est développée à la City of London. Donc bon, on est vraiment dans une guerre entre une petite minorité de gens qui ont pris le pouvoir et qui ont acquis le pouvoir parce qu'ils étaient les seuls à connaître les règles et à anticiper les enjeux, à connaître les enjeux des règles qu'ils évoquaient. Maintenant, ouais. On est dans une situation où ces règles-là, elles peuvent être connues de beaucoup d'autres gens. Même si une grosse majorité refuse de les voir, il y a quand même des gens à la marge, comme toi et moi, on en fait partie, qui sont capables de comprendre les enjeux de tout ce que ces gens, ces mafieux ont développé au fil des siècles. Donc, ils ont perdu leur monopole de la connaissance. Et de cette façon-là, ils vont perdre leur monopole du pouvoir. Mais ça va prendre du temps. Et je dirais que pour accélérer un peu le processus de notre point de vue, il faut rendre aux citoyens, enfin aux gens qui vivent sur un territoire, la portion, la forme politique qu'ils ont perdue, c'est-à-dire leur redonner du pouvoir sur leur propre vie, sur leur propre capacité à décider de leur avenir et à faire des choix et à les assumer, ces choix. C'est-à-dire que si le travail est de plus en plus remplacé par la machine, aujourd'hui, même l'intelligence artificielle arrive à remplacer les services. Donc, en fait, l'humain n'a plus sa place sur Terre. Donc, ça, c'est une aberration. Les humains s'organisent parce qu'ils existent. Et en fait, on est en train de leur dire, vous êtes tellement bien organisés maintenant qu'on n'en a plus besoin de vous.
On n'a plus besoin de vous.
Non, mais en gros, c'est absurde. Enfin, on se rend bien compte qu'on arrive à une absurdité. Et c'est là où... si on avait continué à apprendre toute la rhétorique qui nous avait été transmise par les anciens, les Grecs anciens qui sont à l'origine de notre civilisation, on n'en serait pas là aujourd'hui à développer ce genre d'ineptie. Passer 500 ans à oublier toute la connaissance de l'histoire humaine, de notre propre histoire, de l'individu, de limite physique, mentale, en termes d'esprit, d'âme et, et de corps, de l'humain. Et donc, on ne peut pas anticiper ce que le groupe fera puisque même l'humain ne se connaît plus. Un redéveloppement individuel, c'est-à-dire que les gens se groupent par activité, s'organisent, réélaborent leurs propres règles du jeu, redéfinissent les règlements qui font que qu'est-ce qui doit s'appliquer à leur activité ou qu'est-ce qui est nécessaire au développement de l'activité, qu'est-ce qui doit être puni, qu'est-ce qui doit. Donc, ils génèrent à la fois leurs règles, la gestion des conflits, la formation des nouveaux entrants, la prise en charge. Comment dirais-je, sociale et financière de ceux qui sortent et qui ne peuvent plus travailler en activité physique, mais qui peuvent encore apporter beaucoup par leurs connaissances et leur expérience au groupe. Donc, tout ça, c'est à développer dans le cadre des groupements d'intérêt. Maintenant, ce que je mets, puisque nous, on a un problème de valeur, on n'a pas un problème de règles. Dans nos sociétés, il y a trop de règles, mais il n'y a aucune valeur. Donc, les règles, elles sont c'est juste des termes qui sont dépourvus de sens en termes de droit et de vrai droit. Et le vrai droit n'existe que s'il est soumis à des grandes valeurs, à des grands principes qui sont les principes de droit naturel, c'est-à-dire la protection du vivant, finalement. Parce que s'il n'y a pas de protection du vivant, tout le reste perd du sens. Si on ne protège pas le vivant, on ne protège rien. Ce n'est pas la peine d'élaborer des règles pour vivre ensemble.
C'est-à-dire qu'un même mot a des consonances extrêmement différentes en fonction de l'origine de la personne, pas seulement identitaire, mais aussi de l'origine de formation de la personne. Et donc, même communiquer devient compliqué. Donc, il faut réélaborer un langage commun. Et ça passe par se réhabituer à pouvoir discuter de façon à confronter les idées. Parfois, certains gagneront dans certains litiges. D'autres, sur d'autres, les autres gagneront sur un autre sujet. Donc, nous sommes dans un mouvement constructif d'élaboration du collectif et sans mettre les gens de côté et sans les mettre dans des cases. Vous êtes ci, vous êtes ça. Non, les gens ont le droit d'évoluer et ont le droit, quand ils ne sont pas à leur place à un moment, il faut le leur faire comprendre et ils ont non seulement le droit, mais le devoir de trouver leur place ailleurs. Donc, c'est tout un mouvement de réhabilitation aussi du libre arbitre et de la reprise en main de la destinée de chacun par chacun. Quoi.
Alors, dis-nous quand même trois mots de révolu droit. C'est une démarche de réflexion collective.
C'est une démarche de réflexion collective, construite, élaborée suite à de sérieuses observations et puis surtout par rapport à la compréhension de ce qui a fait que les choses ont mal tourné, en fait. C'est ces rapports de force qui ont été dans lesquels il n'y a plus de rapports de force au final parce qu'on a supprimé tous les contre-pouvoirs. Donc révolu droit, c'est une façon de réinventer le collectif en réélaborant des contre-pouvoirs, mais des contre-pouvoirs qui ne sont pas radicaux, qui ne sont pas du type dialectique, libéralisme contre communisme, des contre-pouvoirs qui sont à chaque instant de la vie quotidienne parce que les gens ont à défendre des intérêts et ces intérêts-là sont par hypothèse en contradiction avec les intérêts du voisin. Donc au lieu d'arriver directement à une pression qui fait que ça explose, il faut être capable sur chaque petite divergence, être capable de pouvoir communiquer, discuter et puis trouver un accord qui ne sera pas nécessairement qualifié de consensus, mais un accord sur un sujet déterminé, et le lendemain, un autre accord sur un autre sujet, parce que la vie en commun, c'est des gens qui n'ont jamais les mêmes intérêts sur rien. Il faut quand même pouvoir être capable de s'entendre et de revenir sur ses positions. C'est tout un phénomène de réélaboration à la fois de ce qu'est l'individu et de ce qu'est le collectif. Ben je dis qu'il faut non seulement préparer les institutions de demain, mais reconstruire le collectif, l'idée même de société, non pas au sens commercial du terme, je le répète.
Pourquoi tu crois ça ?
Ben, je ne le crois pas, j'observe, je constate, et tout le monde le constate avec moi, c'est qu'il y a des failles dans le système actuel, et il est de moins en moins viable pour la grande majorité des gens. Donc il n'est pas possible de laisser toutes les richesses accaparées dans quelques mains, accaparées par quelques personnes qui ont des volontés plutôt obscures et de toute façon pas du tout conformes au développement d'une civilisation. Donc il se trouve qu'il y a un moment, il faut dire dont acte, comprendre ce qui se passe et puis éventuellement pouvoir rebondir sur un projet plus constructif en termes de collectif, parce qu'une fois de plus, et ça c'est une des grandes armes évidemment en matière de guerre, diviser pour mieux régner, ça a toujours été une arme fatale. Et là on en est au point où non, c'est pas même plus les sociétés au sens politique du terme qui ont été divisées, même plus les familles, mais c'est l'individu qui est divisé autour de lui-même. On arrive à un éclatement par atome de l'individu qui ne permet pas la survie en fait de l'humanité. Oui, la charte des valeurs. Je repars sur des valeurs et non pas sur des textes constitutifs fondés sur quoi on se demande. Parce que justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution est arrivée au moment où il y a eu cette prise de pouvoir économique du système, enfin, cette prise de contrôle du politique par le pouvoir économique, lequel était mené par le pouvoir monétaire. Donc ça c'est arrivé au moment des révolutions. Ça joue sur l'inconscient des gens en disant le Parlement, c'est celui qui défend vos valeurs. Mais ça n'a jamais défendu les valeurs, ni dans nos États, ni encore moins au niveau européen. Donc en fait, on utilise, on joue, il y a de l'ingénierie sociale derrière, on utilise des termes pour court-circuiter le raisonnement et la capacité de réfléchir. Donc ce régime politique, je le répète, ce n'est pas un régime républicain, c'est même tout l'opposé, mais c'est un régime qui est fondé sur le parlementarisme dit représentatif et donc sur les partis politiques et sur l'existence d'une banque centrale qui soit indépendante du prétendu pouvoir politique qui lui-même n'existe pas. Je mets dans la charte, je réélabore un pouvoir qui soit soumis au droit naturel dans le sens où l'individu, la dignité de la personne humaine, le libre arbitre de la personne humaine, la recherche de la vérité, l'intégrité et donc la disparition de l'anonymat sont remis comme des valeurs phares indépassables desquelles tous les autres principes découleront et en particulier les règles de droit positif. Donc je réélabore en fait toute la société occidentale telle qu'elle s'est construite sur les 1500 dernières années autour d'un ce qu'on a appelé à l'époque le droit continental qui évolue, enfin, dont la filiation naturelle aboutit à ce que j'ai élaboré comme principe de valeur supérieure. La morale, au sens que je viens de décrire, recherche de la vérité, gestion du conflit par, non pas l'émergence d'un principe de conflictualité, mais par la capacité à rediscuter les uns avec les autres, la réémergence de tous les intérêts individuels et collectifs qui font qu'une société existe, par le fait que l'anonymat qui est source d'irresponsabilité disparaisse, par le fait que la personne humaine doit être respectée, et ça c'est le premier principe, la dignité humaine, le respect de la personne humaine, qui n'est absolument pas dans le champ commercial, et ça il faut quand même bien le réélaborer, avec le fait que l'individu se définit notamment par son libre arbitre. Et donc c'est dans ce sens-là, oui, je réinvestis la morale précisément dans cette direction-là. Bah, l'imposture du régime actuel ne tombera pas tant qu'il est maintenu par les armes, en fait, par la force, par des pouvoirs de type force publique, qui sont là pour défendre un régime qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. En fait, le problème, c'est que ce pouvoir ne va pas s'effondrer tant que les Français ne le comprennent pas, tant que les gens qui continuent à l'accepter. Et le problème, c'est que pourquoi l'acceptent-ils ? C'est parce qu'ils ne comprennent pas les rapports sous-jacents, les rapports de force sous-jacents. Ils ne comprennent pas que tout a été une imposture. Et donc, expliquer que c'est une imposture et expliquer pourquoi, nous, il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans nos régimes. C'est, ça encore, c'est une imposture. Et je dirais que les juristes ont été les premiers coupables.